Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique enregistrée en public dans le cadre de la traditionnelle semaine des ambassadeurs, sorte de rentrée de la diplomatie française qui vient de se tenir en cette fin d'été à Paris. Le multilatéralisme peut-il encore préserver la paix? La question posée trouve toute son acuité dans la période actuelle de turbulence que connaît l'ordre mondial et qui place les opinions publiques dans une certaine incompréhension, elles qui constatent ne plus pouvoir compter sur les organisations internationales, celles-là même qui sont pourtant supposées garantir l'ordre mondial. On pense à l'ONU, l'OTAN, l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe ou encore l'Union Européenne. Cette année a été marquée par le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, une décision annoncée par Donald Trump, candidat, confirmée une fois devenu président, qui est venue concrétiser une forme de contestation croissante vis-à-vis des organisations internationales, lesquelles se voient reprocher de manquer d'efficacité, de représentativité, d'impartialité, voire de transparence. Haro sur le multilatéralisme, pourrait-on dire. Les critiques à son encontre s'accompagnent très souvent d'une tentation de repli sur soi de nombreux États, jugés plus à même de répondre aux nouveaux défis posés dans les domaines économiques, politiques, sécuritaires et environnementaux. Comment pallier les faillites de la régulation internationale? Des réformes de fond sont-elles possibles? Qui sont les responsables? Les organisations internationales elles-mêmes? Les États? Regard sur ce phénomène, la position de la France qui, contrairement à d'autres pays, demeure attaché au principe de multilatéralisme. Pour quelles raisons? Et dans ce contexte, quel rôle Paris entend voir jouer par les organisations internationales? Pour répondre à toutes ces questions, Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France, représentante permanente auprès de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, l'OSCE. Alexis Lamecq, directeur des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie au sein du ministère français des Affaires étrangères. Christian Bader, ambassadeur de France en République centrafricaine, et Éric Rochant, créateur, scénariste et co-réalisateur de la série à succès Le Bureau des légendes. Imaginez, déjà durant la guerre froide, on se souvient de Suez, du Congo, de Chypre, du Liban, la formule des opérations de maintien de la paix s'est largement développée à partir des années 90, c'est après la chute du mur de Berlin en novembre 89. Donc depuis plus de 25 ans maintenant, les Nations Unies dépêchent un peu partout dans le monde, là où des troubles intérieurs sont recensés, des troupes armées, vous en savez quelque chose, avec notamment la République de Centrafrique. Avec vous, Christian Bader. Alors, spécificité de ces interventions, elles se font aux seules fins d'interposition, sans prétention de désigner un coupable, encore moins de le combattre. C'était en tout cas l'esprit de départ, ce qui n'a pas empêché, dans certains cas, des interventions directes à l'initiative de pays, on pense aux États-Unis, ou par l'OTAN interposée. Alors, les missions de maintien de la paix ou de restauration de la paix sont-elles devenues trop ambitieuses, ne serait-ce que par rapport à leurs moyens? On peut aussi parler des objectifs. Peut-être une première question pour vous, Alexis Lamecq, et je rappelle que vous êtes directeur des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie au sein du ministère français des Affaires étrangères, et que vous avez été adjoint à l'ambassadeur de France à New York. Finalement, quel regard portez-vous sur ces opérations?
Peut-être un mot avant de parler des opérations maintien de la paix, puisqu'on parle en fait du multilatéralisme et du rôle en fait, de la capacité du multilatéralisme à préserver la paix. Ce que je voudrais souligner, c'est que pour nous diplomates, le multilatéralisme au service de la paix, ça n'est pas uniquement la panoplie paix et sécurité, c'est-à-dire le maintien de la paix, les casques bleus qu'on déploie. Vous savez, la charte des Nations Unies a été écrite, vous regardez le préambule, c'est écrit clairement, dans l'objectif, en fait, de préserver la paix, justement. Et pour cela, il y a trois piliers qui ont été identifiés. Le premier, effectivement, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le pilier paix et sécurité, c'est le kit complet, effectivement, des outils diplomatiques et militaires dont nous disposons. Lorsqu'une tension, lorsqu'une crise émerge, eh bien voilà, on utilise des outils diplomatiques, on met en place des sanctions s'il le faut, on déploie des casques bleus s'il le faut. C'est un aspect. Mais il y a un deuxième aspect qui est tout aussi important, même s'il s'inscrit dans le plus long terme, et qui est essentiel pour préserver la paix, c'est le développement. Et Kofi Annan disait, il n'y a pas de paix sans développement, il n'y a pas de développement sans paix. Et effectivement, nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation où on ne peut pas en fait distinguer les deux, ne traiter qu'un aspect et pas l'autre. Et puisque j'ai dit qu'il y avait un troisième pilier, Troisième pilier, c'est les droits de l'homme. Troisième pilier au titre des Nations Unies. Et là, je voudrais prendre la citation de Kofi Annan qui disait qu'il n'y a pas de paix sans développement, pas de développement sans paix, et ni l'un ni l'autre ne sont possibles sans les droits de l'homme. Donc ça, c'est le cadre en fait dans lequel nous agissons. Nous ne pouvons pas en fait traiter uniquement l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, c'est un peu la leçon qu'on a tirée, je dirais, du maintien de la paix tel qu'il a été pratiqué. Comme vous le disiez au début, le maintien de la paix, c'était de l'interposition. Il y avait un accord entre deux parties belligérantes. On signait un texte et puis on déployait des casques bleus juste là pour s'assurer que la ligne de partage était préservée. Et simplement, ils étaient là pour compter les éventuelles violations, les signaler et par leur présence dissuader. Donc le pire d'arriver. Puis on s'est rendu compte que ça marchait pas. Et en fait, vous avez parlé de cette date fondatrice qui a été la guerre froide. Il y a eu une date encore plus importante, je crois, dans l'histoire du maintien de la paix, qui a été 1994, le génocide rwandais, les massacres de Srebrenica. Parce que là, on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait pas approcher la question de la paix, le traitement multilatéral de la paix, en faisant l'impasse déjà sur les questions de droit, sur les questions de justice, sur les questions de respect du droit des gens. Et donc du coup, en conséquence, les opérations de maintien de la paix, historiquement, sont devenues de plus en plus complexes. Aujourd'hui, vous avez raison, elles sont devenues en fait extrêmement ambitieuses. Hein. On est loin de l'époque où le maintien de la paix comptait simplement les activités, ou observait simplement les activités des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a des activités de construction de l'État, et ça, je crois que la Centrafrique en est un bon exemple. Il y a des activités donc de surveillance, évidemment, des processus de paix, des processus électoraux. Et puis, en premier lieu, j'aurais envie de dire, et instruit par l'expérience des années 90, il y a une nouvelle notion, une ambition énorme qui a été donnée au maintien de la paix, qui est celle de la protection des civils, par laquelle donc les opérations de maintien de la paix elles-mêmes ont un mandat robuste, vigoureux, de faire en sorte que les civils ne soient pas massacrés. Et c'est d'ailleurs le sens aussi du déploiement de l'opération de maintien de la paix en République centrafricaine, par exemple. Donc c'est devenu un appareil extrêmement lourd, hein, plus de 100 000 personnes déployées, et l'enjeu effectivement pour nous, c'est effectivement que les moyens de ces opérations leur soient donnés.
Alors les moyens qui sont là aussi dans l'actualité avec la décision prise par les États-Unis notamment de réduire le budget consacré aux opérations de maintien de la paix. Donc finalement vous constatez d'une part une grande complexité de ces opérations, la question de savoir finalement si les ambitions et l'ONU ne s'est pas laissé déborder par la réalité du terrain qui est assez complexe, et on l'abordera avec vous Véronique Roger Lacan et Christian Bader. Un commentaire.
C'est effectivement le plaisir qui nous attend dans les mois et années qui viennent. Effectivement, les négociations sur le format des opérations maintien de la paix, je suis quand même raisonnablement optimiste. Je pense que au bout du compte, un certain bon sens va prévaloir. Je pense que les opérations maintien de la paix pourront être certainement en partie reformatées, recentrées sur des priorités. On ne crée pas une opération maintien de la paix sans avoir une claire liste de priorités et d'objectifs à atteindre. Mais ce n'a pas toujours été le cas. On a eu par le passé des opérations beaucoup trop ambitieuses. À la limite, pour faire plaisir aux Américains, les resserrer et les remettre sur des objectifs dans une séquence, ça me paraît une bonne approche. Je pense qu'au bout du compte, les Américains, comme nous quand même, tiennent à ce que une certaine stabilité existe et à ce que les processus de paix soient effectivement mis en œuvre.
Alors je fais amende honorable, peut-être qu'il y a certaines notions qui sont à repréciser, probablement en introduction. Il y a cette première question sur Twitter, qu'est-ce qu'on entend par multilatéralisme? Très rapidement, qui pourrait répondre? Véronique Roger-Lacan.
Le multilatéralisme, c'est la cohabitation d'un certain nombre d'États dans une organisation multilatérale, donc à plusieurs pôles, plusieurs côtés, sur la base, en général, d'une charte constitutive et donc d'objectifs communs, la mise en œuvre de ces objectifs. Donc, pour la Charte des Nations Unies, paix et sécurité, mais pour l'OSCE aussi.
Alors, on a parlé de l'Afrique. Je me tourne vers vous, Christian Bader. Comment, finalement, pouvez-vous décrire aujourd'hui le rôle des organisations internationales? Je pense qu'il est essentiellement question, probablement, de l'ONU, mais vous allez me confirmer ou l'affirmer, en République centrafricaine, avec la mission, la MINUSCA, donc la mission des Nations Unies pour la Centrafrique. Quelques mots aussi sur l'intervention française en RCA. Quelles conséquences? Quel bilan, surtout, peut-être, aujourd'hui, Christian Bader.
Oui, effectivement, toutes ces missions se sont déployées dans des contextes de crise. On peut parler de la République centrafricaine. J'ai passé un peu avant 5 ans en République du Soudan du Sud, où il y avait aussi une crise et une intervention des Nations Unies. Souvent, on voit bien qu'on a une intervention bilatérale qui est effectuée au nom de nos intérêts historiques, au nom de notre responsabilité, et nous le faisons. Mais effectivement, d'être en première ligne pose souvent des problèmes, et souvent on se rend compte que les opérations de maintien de la paix sont en quelque sorte une espèce de bombe de sortie de nos propres troupes. Et le problème, je dirais, qu'on rencontre en permanence, c'est toujours un problème d'appréciation de la crise. Les crises sont variées. Je dirais que les mandats des différentes missions de maintien de la paix sont variés également, mais varient trop peu par rapport, effectivement, à la diversité des situations qu'on trouve dans différents pays africains.
Appréciation en amont ?
Appréciation en amont, absolument. Je prends l'exemple de la République centrafricaine. On a considéré qu'on avait affaire là-bas à des groupes armés avec lesquels il fallait négocier, que donc ce serait une mission, je dirais, pas facile du tout, mais qui allait être quand même circonscrite dans le temps, etc. On se rend compte maintenant qu'on est devant des difficultés beaucoup plus grandes qu'on n'avait peut-être pas appréhendées, et on se retrouve avec des moyens qui sont inadaptés à la situation qu'on trouve dans ce pays. Mais en tout cas, c'est de ça qu'il s'agit, et donc il résulte de cette situation un certain nombre de frustrations de la part des populations, de la part des gouvernements, de la part de la mission elle-même, qui se retrouve confrontée à des difficultés qu'elle n'avait pas prévues. Et effectivement, je suis d'accord pour dire que l'heure n'est pas du tout à la réduction des moyens, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais je dirais que l'augmentation des moyens ne répondrait pas forcément, en tout cas, à la crise telle qu'elle se déploie dans un pays donné, qui est celui dont je parle maintenant, mais qui pourrait être, par exemple, le Soudan du Sud, la MONUSCO a eu sa propre problématique en RDC, on a eu l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Enfin, tout ça, c'est des opérations qui sont appelées souvent à durer au-delà de ce qu'on pensait au début, parce que tout simplement l'appréciation de la crise, je dirais, n'a pas été faite, peut-être parce qu'on n'avait pas assez d'éléments et parce que les crises évoluent également.
Et donc finalement, il y a urgence à ne pas agir trop vite, c'est cela que j'entends de ce que vous venez de dire, Christian Bédard.
Non, pas du tout. Pas du tout, il faut agir très très vite, et Sangaris l'a fait. À l'époque où nous sommes intervenus, c'était donc en décembre 2013, il y avait une véritable urgence parce que nous étions confrontés à un bain de sang. Donc l'intervention a déjà permis d'éviter cela. Elle a permis ensuite de mettre en place un processus démocratique, d'assurer un certain nombre, je dirais, de sécurité aux gens qui sont, par exemple, allés aux urnes pour élire un président démocratiquement élu. Donc c'est très clair, il faut intervenir tout de suite, mais je dirais que ensuite, il faut éviter de s'enfermer dans un schéma qui fait qu'on n'est pas capable de répondre à une crise donnée, avec les moyens dont on dispose.
Alexis Lamet.
Oui, non, je voudrais juste faire écho à ce qu'a dit Christian Bader. En fait, c'est vrai, les crises, en fait, elles évoluent. Et tout l'enjeu, en fait, pour le système multilatéral, les Nations Unies, mais quand je dis les Nations Unies, c'est le secrétariat de l'ONU, Guterres et son équipe, mais c'est aussi nous, les États membres, qui votons et qui prenons les décisions. Tout l'enjeu, en fait, c'est être capable de s'ajuster à l'évolution des crises. Au fond, en République centrafricaine, au début, il fallait arrêter les violences. Aujourd'hui, il faut développer un État. Il faut traiter la question de l'impunité. Il faut donc, à mesure que la crise évolue, être en mesure, donc, de faire preuve de la souplesse nécessaire pour avancer. Et c'est là qu'on rencontre des difficultés. Parce que nous, on y croit, nous, France, nous sommes très engagés en ce sens, mais le Conseil de sécurité, donc, qui est l'instance qui décide pour toutes les questions qui ont trait à la paix, à la sécurité, à l'ONU, le Conseil de sécurité, c'est 15 pays, dont certains, je dirais, n'ont pas le même niveau d'ambition que nous. Et franchement, l'opération maintien de la paix idéale, ambitieuse, dotée des moyens nécessaires dont nous rêverions, en général, elle ne convient pas à certains de nos partenaires, je ne citerai que les Russes, par exemple, mais il y en a d'autres, qui ont une vision beaucoup plus conservatrice et, je dirais, beaucoup moins ambitieuse du maintien de la paix. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver justement à faire en sorte que, à mesure que la crise évolue, l'instrument que nous utilisons soit toujours adapté. Et c'est vrai que c'est un défi.
Alors, je vous remercie parce que vous avez fait la transition pour la question suivante qui est adressée à Véronique Roger-Lacan. Donc, on a parlé de l'ONU. Il y a aussi l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Une organisation qu'on connaît assez mal. Elle ne dispose pas de forces armées. Quelle est la procédure pour faire appliquer ces décisions et de quels moyens dispose-t-elle ?
L'OSCE, donc en effet, Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, une organisation de la détente, une organisation de la guerre froide, une organisation, en gros, qui fait de sorte que l'Est et l'Ouest communiquent ensemble, qui a fait qu'on a eu, à un moment, une coopération, développement de missions de l'OSCE sur le terrain, dans le Caucase, en Asie centrale, dans les Balkans, pour faire de sorte que les États dans lesquels ces missions étaient placées se mettent en conformité avec les objectifs de la charte fondatrice de l'OSCE, de la charte de Paris et de l'acte d'Helsinki. Quelques exemples de ces principes, le non-recours à la force, l'inviolabilité des frontières internationalement reconnues, l'intégrité territoriale, la souveraineté. Autant de principes qui, malheureusement, ont été violés avec l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Et un exemple assez parlant de terrain de guerre, de combat, dans lequel on ne peut pas envoyer d'opérations de maintien de la paix parce que les Russes s'y opposeraient, c'est le Donbass. On a des victimes chaque jour. C'est une vraie situation de guerre, mais là, et on a besoin d'une opération tampon, de quelque chose, et on envoie à ce moment-là l'OSCE. L'espace post-soviétique est le terrain par excellence de l'OSCE. Donc on a une mission spéciale d'observation du cessez-le-feu en Ukraine. Il y a eu un premier cessez-le-feu en 2014 et des accords entre la Russie et l'Ukraine observés par l'Allemagne et la France, dans un cadre qu'on appelle le format Normandie, et qui ont listé une série de principes pour amener la Russie et l'Ukraine à la paix, dont la mise en place de cette mission, 800 observateurs qui se déplacent sur un terrain extrêmement volatile au péril de leur vie et de leur sécurité pour assurer la sécurité des populations du Donbass.
Je reprendrai prochainement une question posée sur Twitter. Avant cela, Éric Rochant, que vous inspire ce qui s'est dit jusqu'à présent autour du rôle de l'ONU, de l'OSCE et de ce multilatéralisme dont il est question pour cette table ronde?
Je suis là pour me mettre les pieds dans le plat, donc je vais le faire. En gros, le multilatéralisme, bon, au départ, je ne sais pas vraiment ce que c'était. J'ai compris que l'ONU, ça avait à voir avec l'ONU. On a l'impression, vu d'où je suis, que en gros, l'ONU, ça sert plus à grand-chose. On est témoin d'une impuissance, que je pense être illusoire, mais d'une impuissance de l'ONU à répondre à un certain nombre de défis. Et Monsieur le ministre a parlé de que nous étions dans un monde de rupture. Je pense que c'est fondamentalement vrai. C'est un monde de rupture à plus d'un niveau. Mais c'est vrai que l'ONU ne semble pas être en capacité de s'adapter rapidement à ces ruptures. Et c'est pour ça, je crois, qu'on a ce sentiment que ça ne sert pas, en tous les cas, assez, et que ça ne sert pas nos propres désirs. Et c'est un des défis, parce que je pense que le multilatéralisme est challengé, contesté par trois réalités. Et la première de ces réalités, pas dans le sens de l'importance, mais en tout cas la première qui me vient à l'esprit, c'est justement que la médiatisation du monde, qui est une des ruptures de notre monde actuel, par rapport au monde dans lequel je suis né, par exemple, je suis né en 61, donc je suis né dans un monde qui a hérité de la Seconde Guerre mondiale. Bon, en 61, le monde était encore hanté par la guerre, et l'Europe avait encore ce sens-là d'être finalement une réponse à la guerre en Europe, et l'ONU avait ce sens-là d'être une réponse à la guerre mondiale. Bon, et je suis né aussi dans un monde qui était celui de l'opposition idéologique entre l'Union soviétique et disons l'Ouest, l'Est et l'Ouest. Opposition idéologique, c'est ça qui est très important, parce qu'en fait, c'est ça qui a changé aussi. C'est une des ruptures du monde actuel. Mais la médiatisation globale, planétaire du monde, fait qu'il y a une pression émotionnelle des opinions, extrêmement importante. Une pression émotionnelle parce qu'on a accès immédiatement aux conflits, aux images. On est nous-mêmes, nous, l'opinion, sous pression de cette médiatisation émotionnelle. Nous transposons cette pression sur nos gouvernants, sur les pouvoirs auxquels on a accès, on leur demande des comptes, et eux sont obligés de demander des comptes, donc, aux instances internationales, pour agir, et en tout cas pour réagir, et pour répondre à nos désirs, qui sont issus des émotions. Et donc j'ai l'impression qu'à ce moment-là, que le sentiment qu'on a que l'ONU ne sert à rien, c'est parce qu'en fait, elle ne va pas assez vite par rapport à la pression que nous ressentons émotionnellement. Et c'est vrai que nous sommes impuissants, nous, quand nous voyons les images d'un conflit à 10 000 km de chez nous, nous sommes totalement impuissants, mais pourtant nous le ressentons dans notre chair, nous sommes totalement identifiés aux victimes. Et nous voulons qu'il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, nous voulons absolument des interventions de la paix, des ingérences humanitaires. Nous voulons que ça bouge. Et évidemment, c'est bien plus compliqué que ça. Et donc, du coup, la complexité de cette instance qui est, par exemple, l'ONU, on ne la comprend pas. On n'y a pas accès parce qu'elle ne répond pas, elle n'est pas au même rythme que le rythme du monde aujourd'hui. Donc, il y a une adaptation probablement nécessaire, il me semble, que il faut que les deux rythmes, le rythme donc du multilatéralisme, il semble qu'il doit un tout petit peu s'adapter au rythme aujourd'hui du monde. Et ce rythme-là est une des premières ruptures d'aujourd'hui.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités, Véronique Roger-Lacan, Alexis Lamecq, Christian Bader et Éric Rochant dans quelques instants.
Tout à l'heure.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis le centre de conférence du ministère des Affaires étrangères à l'occasion de la semaine des ambassadeurs qui vient de se tenir à Paris, suite de notre débat sur la question de savoir si le multilatéralisme peut encore préserver la paix. Nous retrouvons nos invités, Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France, représentante permanente auprès de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, l'OSCE, Alexis Lamecq, directeur des Nations Unies, des organisations internationales, des droits de l'homme et de la francophonie au sein du ministère français des Affaires étrangères, Christian Bader, ambassadeur de France en République centrafricaine, et Éric Rochant, créateur, scénariste et co-réalisateur de la série à succès Le Bureau des légendes. Alors, Christian Bader, sur la République de Centrafrique, à nouveau, ce qu'évoquait Éric Rochant sur les lenteurs, les rythmes qui ne sont pas les mêmes, finalement, c'est un peu un paradoxe.
Sans doute. Je voudrais quand même revenir simplement sur l'aspect médiatique. Il est très important parce que on se rend compte quand même que toutes les réussites des missions ont été un peu passées sous silence. Il y a quand même eu des grandes réussites dont il faut parler.
Vous pensez
rapidement. La Namibie, le Mozambique, la PRONUC au Cambodge, l'ONUCI en Côte d'Ivoire pendant la faim, les transitions démocratiques en Amérique latine. Ça a été des succès, mais qui ont été très peu médiatisés. Il est très clair qu'un échec, lui, est outrageusement médiatisé. On se trouve bien dans cette situation-là, où effectivement, dans le cas de la République centrafricaine, puisque vous en parlez, j'y suis, c'est très clair, on est dans une situation en ce moment d'échec. Les médias, évidemment, s'intéressent au pays, et évidemment, la mission, je dirais, est en première ligne pour expliquer ces échecs, etc. Et donc, on est dans la nécessité, encore une fois, d'adapter les moyens, mais je dirais surtout dans la nécessité d'expliquer quel est le réel problème. Et je dirais que, de ce point de vue-là, puisqu'on parle d'un cas précis, mais je dirais que c'est un point commun avec le Soudan du Sud. Le problème, c'est pas tellement qu'on a des groupes armés avec lesquels il faut discuter. Le problème à la base, c'est une répartition totalement injuste des richesses du pays. C'est une répartition injuste du pouvoir entre des générations, entre des ethnies, entre peut-être des religions. Et je dirais que là aussi, on voit bien la difficulté extrême d'intervenir dans un contexte pareil où tout peut, je dirais, démarrer avec une étincelle. Et on se retrouve avec des casques bleus qui sont positionnés dans certains endroits et qui, évidemment, ont vocation, et ils le font très bien, et c'est pour ça que je dis il y a vraiment des réussites. Des casques bleus à Bangui font que moi, je peux aller au travail le matin. S'ils n'étaient pas là, ma situation et la situation de tous les Français, la situation de tous les Centrafricains serait fondamentalement différente. Il ne faut pas l'oublier. Même si, effectivement, la MINUSCA ne peut pas être présente au quatre coins du pays. Quand on a un autre problème, et c'est pour ça que je dirais que les situations sont particulières, il y a un problème également en Centrafrique, c'est un peu mon avis, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup de mes collègues, qui est un problème de maintien de l'ordre, qui fait que, je dirais, les délinquants, parce qu'il s'agit de ça, ne sont pas arrêtés, que les dossiers ne sont pas montés, que ces délinquants ne sont pas jugés, et que s'ils l'étaient, il n'y aurait aucun endroit pour les incarcérer. Ça fait une partie du problème, et là aussi, la MINUSCA, malgré son mandat dit robuste, n'est pas du tout là pour se substituer aux Centrafricains pour assurer le maintien de l'ordre, je dirais au jour le jour. Donc là aussi, il y a une nécessité peut-être d'évoluer, mais en dotant finalement les États récipiendaires des missions et également des moyens de fonctionner.
Donc une certaine défaillance sans stigmatiser quiconque. Il y a des questions sur les réseaux sociaux, mais comme nous sommes en public, peut-être il y a dans la salle une question sur ce qui a été abordé jusqu'à présent. Merci.
Bonjour madame, merci de me donner la parole. Je salue l'ambassadeur Bader. Je suis centrafricaine. Je m'appelle Antoinette Montaigne. Je suis ancienne ministre de la Réconciliation nationale pendant la transition. Et aujourd'hui, je préside une ONG centrafricaine qui s'appelle Académie de la paix. Je voulais saluer cette initiative qui permet aussi à nous francophones d'Afrique de nous exprimer et aussi surtout de rappeler, s'agissant de la République centrafricaine, que c'est un pays qui n'est pas bien connu sur le plan historique. Parce que la République centrafricaine, c'est le bataillon marche numéro 2 BM2, victorieuse de Birakem. C'est très important de le dire, donc très associé à l'histoire de France. Et ensuite, pour dire que la France a bien fait d'intervenir en 2013, mais les solutions qui ont été proposées n'étaient pas à la dimension de la problématique complexe posée. Quand on reprend le discours du 13 août 2017 du président de la République centrafricaine, on voit deux problèmes majeurs qui ne sont pas mentionnés dans les solutions. Premièrement, il y a la question du mercenariat international qui sévit en République centrafricaine, qui n'est nullement abordée. Et deuxièmement, il y a la question de la transhumance armée, qui est un problème majeur, qui dépasse largement les petites capacités de la République centrafricaine. Ça, ce sont les raisons pour lesquelles, effectivement, M. l'ambassadeur Bader a parlé d'échecs relatifs, et effectivement, nous devons nous y atteler ensemble. Pour revenir à la question des solutions, je proposerais peut-être qu'on y réfléchisse ensemble pour voir comment impliquer davantage les Centrafricains. Effectivement, l'État centrafricain n'a pas toujours été très aidant, hein, parce que c'est un gouvernement très fragile depuis des décennies, n'a pas été très aidant pour trouver des solutions. Mais il y a la société civile. Nous avons la possibilité aussi de mobiliser les citoyens pour résoudre cette crise, surtout en essayant d'aller au-delà des solutions jusqu'ici proposées qui ne sont pas encore à la dimension des problèmes posés.
Christian Bader, vous souhaitez réagir à Passera, on passera à la deuxième partie de ce débat. Christian Bader.
Oui, oui, bah écoutez, merci madame, on est tout à fait d'accord. Et il y a une dimension que vous avez évoquée qui est extrêmement importante, qui est la dimension sous-régionale d'une crise. Il ne faut jamais l'oublier. Un pays enclavé comme la République centrafricaine, les problèmes qu'il rencontre, vous avez parlé de la transhumance armée, du mercenariat, c'est des problèmes qui doivent être réglés également par la sous-région et par l'Union africaine que nous appuyons dans toutes les solutions, les initiatives qu'elle serait en mesure de proposer. Et là encore, on a d'autres solutions que la panacée, je dirais Minusca, qui n'est pas là pour tout régler. Donc ça, c'est essentiel d'avoir effectivement vos voisins qui sont tout à fait partie prenante à la crise que vous vivez et qui sont également une bonne partie de la solution. Ensuite, il y a effectivement, vous l'avez dit, l'émergence de la société civile. C'est essentiel. Je dirais que moi, je suis un peu un vieil Africain. J'ai passé presque 30 ans dans des pays d'Afrique. Je n'en ai pas vu un seul régler ses problèmes avec l'aide internationale et l'aide extérieure. Très étonnamment, tous les pays d'Afrique qui s'en sont sortis définitivement, et je songe à beaucoup de pays d'Afrique de l'Est, par exemple, qui avaient conduit des situations abominables, hein, l'Ouganda entièrement détruite, l'Éthiopie moyenâgeuse, etc. Ce sont des pays qui s'en sont sortis finalement grâce à eux-mêmes, avec leur propre la mobilisation de leurs propres moyens. Et je dirais que là aussi, la MINUSCA, les missions quelles qu'elles soient militaires, doivent permettre une espèce de transition, mais ne sont pas appelées à s'éterniser dans un pays, même si effectivement le cas de la MONUSCO est un peu extrême, ils sont là depuis plusieurs années, mais que l'idée et l'idée que nous avions à Sangaré, c'était bien entendu de songer depuis le début à la sortie et au passage du relais. Et il a été dommage que Sangaré soit parti en passant le relais finalement à la MINUSCA, ce qui était la seule solution. Nous aurions sans doute préféré, si cela eût été possible, passer le relais au Centrafricain.
Vous écoutez RFI.
RFI. Géopolitique.
Marie-France Chatin.
Alors la question de la défiance envers le multilatéralisme, je le disais en introduction, d'une certaine manière, elle se répand. Les critiques à l'encontre du multilatéralisme avaient pour conséquence une tentation de repli sur soi de nombreux États. Et l'élection de Donald Trump et la position du président américain, on pense évidemment à la question du retrait des États-Unis de l'accord sur le climat, qui est une question dont on n'a pas beaucoup parlé dans la première partie de ce débat. Il y a aussi le Brexit. Est-ce que vous voyez les uns et les autres des risques de contagion, peut-être aussi de nécessité de faire évoluer ces organisations internationales? La surreprésentation des pays du Nord dans les grandes organisations, est-ce qu'elle ne pose pas des questions de légitimité? Alexis Lamecque.
Oui, merci. Ce sont des questions évidemment centrales, hein, que nous posons depuis longtemps, et je dirais même qu'elles ne sont pas liées spécifiquement à l'élection de Donald Trump. Au fond, quand on regarde le paysage multilatéral depuis des années, il y a toujours eu des champions et des retardataires, des gens moins motivés que d'autres. Alors selon les époques, ça a changé. Là, effectivement, c'est le président américain. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très engagé. Mais regardez, en même temps, on a un nouveau secrétaire général, Antonio Guterres, qui est certainement le meilleur que les Nations Unies aient jamais eu. La première fois qu'on a un homme d'État, en fait, à la tête des Nations Unies, qui réorganise les Nations Unies en conséquence, pour en faire quelque chose qui ressemble à un gouvernement, en fait, orienté vers l'action, vers le résultat. C'est la première fois. Mais donc, on a quand même des éléments assez rassurants. Je ne veux pas être trop négatif et trop pessimiste, je dirais, sur le paysage. Bon, naturellement, il va s'agir de traiter, de prendre en compte le fait que l'État qui contribue le plus aux Nations Unies, les États-Unis, c'était quand même 10 milliards de dollars, hein, en tout, sur un système des Nations Unies qui en représente 40, 45. Donc, c'est considérable. C'est nécessaire qu'évidemment, nous trouvions le moyen d'engager ce pays, de faire en sorte qu'il reste un partenaire actif au sein des Nations Unies. C'est typiquement le genre de message que le président de la République passe à Donald Trump quand il le voit précisément. Il voit aussi l'intérêt global, mais aussi l'intérêt des États-Unis. C'est l'intérêt des États-Unis, au fond, que le monde reste stable et que nous avancions dans les différents processus.
Véronique Roger-Lacan.
La question de la représentation à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est un petit peu différente dans la mesure où c'est une organisation du Nord qui va de l'Est vers l'Ouest et qui, en réalité, est assez une représentation assez équitable en termes de participation. 57 États participants de Vancouver à Vladivostok, dit-on. Ce qu'on doit noter dans la légitimité, la remise en question de la légitimité, la remise en question de l'architecture de sécurité en Europe, c'est la position russe, qui dit l'OSCE est une organisation autant centrée, qui est trop gérée par des valeurs occidentales, qui est trop gérée par des droits de l'homme qui sont des droits de l'homme, une vision occidentale. Alors le président de la République l'a dit ce matin, les droits de l'homme, ce ne sont pas des droits occidentaux, ce sont des droits universels. Et donc notre objectif, c'est bien de faire de sorte que l'ensemble des États participants partagent cette vision. C'est pas évident. Et c'est vrai que la Russie et ses affidés en ce moment à l'OSCE a comme objectif de remettre en question l'ordre tel qu'il est, il a été façonné à nouveau à la fin de la guerre froide. D'abord, il faut savoir si c'est vraiment leur but, comment ils vont s'y prendre et enfin comment on va réagir. Parce que c'est vrai que pour nous, il est absolument hors de question de changer cet ordre que nous considérons comme universel. Mais nous maintenons, encore une fois, le dialogue avec la Russie qui demande une répartition équitable des postes, des responsabilités, qui ne paie rien du tout. Et nous sommes dans une situation où la Russie et ses affidés sont les, par exemple, les 15e, voire encore plus bas, contributeurs au budget de l'OSCE. C'est un petit budget, en tout 240 millions d'euros. Mais nous sommes les premiers contributeurs avec les États-Unis, l'Allemagne, l'Union européenne. L'Union européenne paie 70% du budget de l'OSCE. Et les Russes et leurs affidés utilisent en gros notre argent pour détricoter cette architecture de sécurité avec notre argent.
Alors la question des critiques envers le multilatéralisme, et quand on voit là, pour ne pas les citer encore, les États-Unis ou la Grande-Bretagne, la question qui se pose, c'est finalement le flambeau du multilatéralisme, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui de plus en plus porté par la Chine, par les pays émergents? Mais Éric Rochant, moi je voulais presque envie de vous demander à nouveau un commentaire sur ce qui s'est dit. Vous évoquiez tout à l'heure les différences de rythme. C'est vrai que le multilatéralisme implique les lenteurs qui ont été évoquées face à une actualité évidemment changeante, mais elle l'a toujours été. Et en tout cas, le regard qui est porté sur l'actualité qui s'est considérablement accéléré.
Oui, alors l'actualité est changeante, mais encore une fois, on est contemporain d'une véritable rupture planétaire. On est contemporain d'un changement, disons, d'éléments dans lequel nous vivons. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le nouveau conflit auquel on assiste aujourd'hui depuis plusieurs années, qui est le conflit syrien, irako-syrien. Bon. Là, on a affaire à un vrai défi au multilatéralisme, puisque c'est déjà un conflit multilatéral. Avant, on avait affaire à un conflit bilatéral sur des terrains locaux, où en fait, chacune des grandes puissances était représentée par des puissances locales. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. On a d'un côté l'axe pro-Assad, Russie, Iran, Syrie. On a la Turquie, qui elle est en conflit avec le peuple kurde. On a l'alliance occidentale, disons, qui elle intervient principalement pour la lutte contre le terrorisme. Et on a aussi un autre conflit qui est transversal à tout ça, qui est, disons, l'opposition entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. On a un terrain extrêmement complexe où le jeu des alliances fait qu'on peut être allié avec son ennemi. Alors parce que évidemment, je parle pas de
j'ai pas parlé d'État islamique.
Voilà. Donc en fait, il y a des moments où en fait on est allié avec son ennemi, et puis une fois qu'on a gagné une bataille, on fait la guerre contre son ancien allié. Donc à ce moment-là, je trouve que évidemment, ce conflit, c'est un conflit qui est exemplaire du monde de rupture dans lequel on est et qui pose un défi au règlement des conflits utilisant les instances du multilatéralisme. Et je crois que cette réalité-là nouvelle et de rupture est issue d'une réalité qui vient de la fin de la guerre froide et qui, en fait, qui vient de la fin de l'Union soviétique. La fin de l'Union soviétique a été, on l'a vu il y a plusieurs dizaines d'années, l'émergence des nationalismes. Mais en fait, on subit aujourd'hui la seconde vague de conséquences qui fait que l'opposition a été désidéologisée. Ce n'est plus une opposition idéologique entre le communisme et l'Ouest. C'est une opposition entre nations, entre puissances importantes. C'est bien pour ça qu'elles sont, elles, représentées au sein du bureau du Conseil de sécurité. Mais ça n'est plus idéologique. Et ça, ça change tout. Alors que l'idéologisation du conflit s'est déplacée sur l'islamisme politique. C'est la nouvelle idéologie qui vient contester toutes ces puissances, aussi bien la Russie, qui de temps en temps est souvent très opposée aux États-Unis, mais qui se retrouve dans la lutte contre l'islamisme politique, et la Chine aussi, d'une certaine manière. Donc en fait, il y a vraiment une complexification des conflits, et qui est un vrai défi à l'instance de maintien de la paix, enfin sur la sécurité et la paix qui est l'ONU. Et on se demande comment va faire l'ONU pour s'adapter et pour prendre en compte cette rupture.
Complexification des situations, des conflits, c'est presque ce que j'ai envie de retenir de cette table ronde, en sorte de trame de l'actualité aujourd'hui. Christian Bader.
Oui, tout à fait. Les vieux schémas ne fonctionnent plus. Hein. On a évoqué un tout petit peu la surreprésentation des pays du Nord. Moi, je crois que c'est plus vraiment le sujet. De toute façon, quand vous avez une mission chez vous, c'est pas ce que vous regardez. C'est des débats importants, mais qui se passent à New York. Sur place, vous allez regarder qui intervient. En gros, je dirais, vous allez regarder la direction de la mission qu'on vous envoie et vous allez surtout regarder la nationalité des casques bleus. C'est extrêmement important. C'est un sujet d'ailleurs très complexe aussi, qui a des ressorts que nous ne maîtrisons pas du tout sur place. On se dit pourquoi on a envoyé tel contingent, pourquoi on l'envoie ici, pour qu'on envoie un contingent musulman aux prises avec des musulmans ou au contraire avec des non-musulmans, etc. Et donc tout ça, on se rend bien compte qu'il y a une dimension qui évolue et qui rend effectivement les interventions encore plus complexes et les opérations de maintien de la paix très très difficiles à faire changer de direction dans la mesure où la problématique n'est pas uniquement la problématique locale, mais que ça se réfère toujours à d'autres questions qui se posent ou à New York ou dans les capitales.
Véronique Roger-Lacan.
La complexification des conflits, c'est en effet une vraie question, parce que ça signifie que pour les gérer, pour les traiter, il faut les comprendre. Et donc il faut les analyser, il faut avoir éventuellement un service de renseignement, ou pour les organisations multilatérales, ça pose, et les opérations de maintien de la paix et les opérations multilatérales, ça pose la question du partage de la compréhension de la situation. Et ça, vous avez raison de mentionner le fait qu'on est passé d'idéologie à des rapports de puissance, mais en réalité, les idéologies, c'était des rapports de puissance. Et qui dit rapport de puissance dit « je garde l'information que j'ai sur telle et telle faction, sur les rapports entre les différentes parties en conflit, et on ne les partage pas parce que ça assoit ma puissance et on arrive au bureau des légendes. »
Oui, j'allais venir, ça sera peut-être la conclusion pour vous, Éric Rochant. Finalement, cette complexification, elle vous arrange en ce sens que vous avez en tout cas l'occasion de décrypter, de tirer la pelote de laine et d'expliquer un peu les tenants, les aboutissants.
Je ne vais pas faire de cette conférence une pub pour le bureau des légendes quand même, donc. Mais c'est en fait la réalité complexe met en lumière, ça c'est sûr, et c'est vrai que la série en a profité, met en lumière l'importance des services de renseignement, c'est clair.
Merci, je crois que, alors il y avait d'autres questions sur l'ONU, beaucoup, vous parliez de la Syrie, alors pourquoi la coalition est-elle en Syrie sans autorisation de l'ONU ni du pays concerné ? Comment réagir à l'hostilité des populations locales face à une mission de maintien de la paix, par exemple au Mali? J'ai peur que voilà, ce soit malheureusement des questions qui resteront aujourd'hui sans réponse. Mais en tout cas, il me semblait important de les mentionner. Merci à chacun des participants de cette table ronde. Je rappelle Véronique Roger-Lacan, Alexis Lamecq qui a dû partir de façon un petit peu anticipée, Christian Bader et vous-même, Éric Rochant. Très bon après-midi à chacun. C'est la fin de Géopolitique, enregistrée à l'occasion de la semaine des ambassadeurs qui vient de se tenir à Paris. Merci à nos invités. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France, représentante permanente auprès de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Alexis Lamecq, directeur des Nations Unies, des Organisations Internationales, des Droits de l'Homme et de la Francophonie au sein du ministère français des Affaires étrangères. Christian Bader, ambassadeur de France en République centrafricaine. Et Éric Rochant, créateur, scénariste et co-réalisateur de la série à succès Le Bureau des Légendes. Émission signée Marie-France Chatin, Victor Hull, Nathalie Laporte et Véronique Durand. Demain, Géopolitique sera consacrée à l'Asie du Sud-Est.